Bon, donc pour la troisième et dernière communication de ce matinée, nous avons donc quelqu'un qui n'est pas venu de très loin. Monsieur Lucien Belli, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne. Je pense que quand on parle de l'histoire diplomatique, on n'a pas besoin de dire l'importance du travail de monsieur Belli dans ce cadre, notamment pour la France du XVIIe siècle, mais plus largement. Donc, quand j'ai conçu cette journée, tout de suite, c'était une des premières personnes à laquelle j'ai pensé. Aujourd'hui, il va donc nous parler des ambassades marocaines en France, ambassades françaises au Maroc, une confrontation culturelle, point d'interrogation. Et voilà, la parole est à vous. Merci.
Permettez-moi à mon tour de remercier du fond du cœur le professeur Subramanian de son invitation. C'est un grand plaisir, un grand honneur aussi, et ça correspond également à des interrogations qui sont les miennes, même si je serai très, très prudent parce que je suis plutôt un spécial. J'ai dû toucher quelque chose, voilà. Voilà, parce que je suis plutôt un spécialiste de l'Europe. Et je partirai d'ailleurs de cette première idée ou première affirmation. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais pour moi, il y a eu dans l'Europe moderne des 16e, 18e siècle une forme de stabilisation et de formalisation de pratiques destinées à finir la guerre ou à la préparer en réalité, et c'est ce qu'on a appelé finalement diplomatie à la fin du XVIIIe siècle, ce mot devenant finalement une notion commune dans le monde entier. C'est un mot qui a fait fortune, diplomate, diplomatie, et c'est néanmoins finalement une réalité de l'Europe, d'une Europe d'ailleurs qu'il faut sans doute voir différemment aujourd'hui que l'histoire global s'est imposé, eh bien, c'est une Europe surarmée, divisée sur elle-même et déchirée par les guerres. Et si finalement ces méthodes se sont fixées de façon assez rigide, eh bien, c'est sans doute pour répondre à cette réalité tragique. Cette diplomatie européenne avait des formes de dialogue avec d'autres airs, en particulier, nous l'avons déjà vu, avec l'Empire ottoman, et on peut dire que là, les choses étaient bien établies, et même s'il n'y avait pas de véritable guerre, ou rarement des guerres entre ottomans et chrétiens. Et, en revanche, il y a une plus grande difficulté pour les États européens à discuter avec les empires et les États lointains. Je dirais qu'il y avait finalement trois types de relations. D'un côté, et Geoffrey Parker évoquera peut-être cela cet après-midi, une capacité du roi d'Espagne à se glisser dans des empires existants, comme l'Empire du Mexique et l'Empire du Pérou. Des formes que nous avons vues à l'instant, des formes que je qualifierais d'infra-diplomatie, il faudrait trouver un autre mot, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait un jugement de valeur, ce sont simplement, c'est le travail des marchands, le travail des missionnaires, le travail des informateurs, c'est-à-dire on laisse s'exercer des voyageurs qui proposent une forme de dialogue qui ne va pas jusqu'au stade politique. Et de façon intermédiaire, il y a ce que j'appellerais un modèle hollandais et qui a en particulièrement qui a marqué le temps de Louis XIV, c'est-à-dire l'idée qu'il faut entretenir des relations très prudentes avec des princes, les conserver, les respecter et progressivement essayer de les protéger, enfin, ce sont des protectorats, hein, c'est ce qu'on appellera plus tard des protectorats, nouer avec eux des liens exclusifs de manière à favoriser en réalité l'économie des pays européens. Et c'est cette tentation qui est apparue au temps de Louis XIV, et je vous le dis très nettement, ça a été un échec, mais ça a été vrai pour le Siam, ça a été vrai pour les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord, ça a été vrai pour la Sénégambie avec le roi Latsuga Befal, qui a été étudié par Makrufi Traoré. Il y a eu une tentative avec la Guinée, avec le prince Adiaba, qui a fait un très long séjour en France. Et c'était toujours l'idée de faire d'un prince lointain un ami de Louis XIV pour nouer des relations qui seraient essentiellement économiques. Cette perspective, c'est donc, vous voyez, par cela, c'est par l'étude de la diplomatie de Louis XIV que j'étais amené à considérer tous ces liens très singuliers, ces égards qui font finalement de princes africains des membres de la Société des princes, dans une certaine mesure, hein, il faut être prudent, mais dans une certaine mesure. Mais c'est donc aussi une volonté de désenclaver cette histoire diplomatique, de voir si ce que j'ai dit tout au début, cette définition européenne de la diplomatie, peut être confrontée à l'histoire du monde, et cela c'est beaucoup plus délicat. Comment se faisaient ailleurs les relations diplomatiques, jusqu'à quel point elles étaient formalisées, et quelles étaient ces formes. Je dirais également que, d'une certaine manière, dans la société française, la diplomatie passait inaperçue parce que, justement, elle était devenue ordinaire. En revanche, la venue d'envoyés lointains suscitait une curiosité extraordinaire. Et c'est pour cela que je retiendrai aujourd'hui essentiellement la dimension culturelle de ces relations diplomatiques, en prenant un cas très connu, le cas du Maroc, un cas déjà bien exploré et qui a son histoire, puisque les sources dont nous disposons étaient établies au temps du protectorat, des sources inédites de l'histoire du Maroc, qui, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais ce sont de magnifiques publications faites en particulier par Henri de Castres et d'autres savants. Alors, je ne suis pas philologue, il faudrait un philologue pour regarder de plus près ces choses-là, puisqu'il y avait souvent le texte arabe qui est édité, puis sa traduction. Donc, il faudrait tout reprendre, même si les éditeurs ont bien regardé de près les problèmes de traduction. Donc, il y a, vous allez voir tout au long de mon intervention, cette question de la traduction et le rôle des interprètes. C'est un cas étonnant également, puisque c'est la relation entre Louis XIV et finalement un homologue qui est Moulay Ismaïl. Alors, le Maroc, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, est un État indépendant et qui n'est pas très éloigné de l'Europe. Donc, c'est une histoire connectée très, très relative, puisque ce n'est pas un pays très, très, très lointain. Mais il appartient à l'Afrique, il appartient au monde musulman, et là, on peut dire que cela crée un fossé important. Il se rappelle aussi périodiquement à l'attention des rois chrétiens, dont la France, et de façon brutale à travers la course. En effet, de part et d'autre, se pratique la course. Et longtemps, les historiens français ou européens ont désigné comme pirates les vaisseaux venus d'Afrique du Nord qui arraisonnaient les bateaux marchands, en particulier les très redoutés salétins qui étaient installés donc près de Rabat, que vous voyez ici, et qui opéraient très loin de leur base jusque dans la mer du Nord, et bien sûr dans l'Atlantique. Aujourd'hui, le terme de course a prévalu. On voit bien comment progressivement on a appris ces relations avec ce qui n'était pas européen, puisque l'on a constaté, bien sûr, qu'il y avait une course chrétienne contre les Marocains. Donc c'est course contre course. Cela débouchait sur la question dramatique des captifs, puisque de part et d'autre, les captifs étaient traités comme esclaves, et nous verrons que c'est finalement le dit et le non-dit de ces négociations. Cet esclavage donnait donc un tour dramatique à ces discussions politiques, et vous voyez, j'ai retrouvé hier, en bas d'une lettre en arabe, cette au dos plutôt, cette mention, je supplie le très révérend père Dominique Busneau, commissaire général du rachat des pauvres esclaves français au royaume du Maroc, d'avoir pitié de moi, comme il m'a promis, et d'obtenir de monseigneur de Pontchartrain ce mort qui est à Dunkerque pour ma liberté. Je suis son très humble serviteur, le pauvre Joachim Homo. Donc vous voyez, c'est cette réalité-là qui est derrière ces relations, et c'est ce qui est de tragique derrière ce que je vais vous montrer, qui est plutôt badin, c'est cette réalité-là qu'il faut avoir en tête. Donc ces ambassades n'ont pas du tout pour fin d'établir une représentation permanente, mais visent néanmoins à établir une forme de dialogue politique afin d'humaniser des rapports qui sont inhumains. Je dirais qu'il s'agit finalement d'une diplomatie humanitaire avant la lettre. Alors bien sûr, les délégations de diplomates parlent d'établir la paix, voire de préparer des expéditions communes. Mais néanmoins, c'est essentiellement la question des esclaves qui se pose, très complexe, je n'y reviendrai pas, il faudrait les étudier de très près parce qu'elles sont difficiles à suivre et à comprendre. En réalité, derrière cette question de l'esclavage, il faut bien voir que le roi de France cherche à garder ses esclaves pour les chourmes de ses galères en Méditerranée, et le roi du Maroc profite grandement de ces marchandages financiers autour du rachat des captifs. Donc, je vous le dis tout de suite, finalement, ces négociations sont amenées à échouer, forcément, puisque les princes n'ont aucun intérêt de part et d'autre à les faire réussir. Alors, l'intérêt de ces relations, c'est que le roi du Maroc, Moulay Ismaïl, ici, dans une gravure allemande, a régné pendant près de 55 ans sur le Maroc, et les récits ont abondé à son sujet, émanant en particulier des religieux qui mercédaires, trinitaires, qui procèdent au rachat des captifs. Bien sûr, ce sont des vues intéressées, puisque ce sont des hommes qui ont souvent connu les esclaves, qui ont parler pour eux, donc c'est toute une littérature à charge contre Moulay Ismaïl, qui apparaît comme un roi très cruel, mais en même temps très vigilant. C'est à la fois une sorte d'hommage qu'on lui rend, et un portrait terrifiant, on lui attribue, alors c'est des discussions sur le nombre de gens qu'il a pu tuer, hein, dans sa, alors c'est 20 000, le diplomate français dit, mais, pendant les quelques jours où j'y étais, il en a tué 45. Alors, vous voyez, donc c'est toute une question de mort. Alors ça pose quand même une question, est-ce qu'il procédait lui-même à des morts, est-ce qu'il tuait lui-même les gens, c'est difficile à trancher. Alors ça a été l'objet d'ailleurs d'un livre très intéressant, en 1986, d'un diplomate marocain, Younes Nekrouf, qui a voulu relire toutes les relations, toutes les correspondances, pour donner son propre texte, sa propre version. Et je dirais que ce livre est finalement déjà un document historique, parce que il prend souvent un ton très patriotique en reprochant à tous ces Français de donner une image déplorable de son prince, mais en même temps, sa critique se tient. Il montre comment ces diplomates donnent, et vous le verrez dans quelles conditions, une image terrible du Maroc. Le Maroc est également enveloppé dans les affaires européennes, puisque plusieurs pays européens sont présents sur les côtes. L'Espagne avec les présides, Melilla et Ceuta, et l'Angleterre avec Tanger, obtenu par le mariage de Catherine de Bragance avec Charles II. Et Moulay Ismaïl a fait le siège de Tanger en 1679, et il a lancé, et c'est là que s'opère une première relation entre l'Angleterre et le Maroc, au temps de Moulay Ismaïl, qui va laisser un souvenir intéressant parce qu'on a signalé un incident révélateur de ces questions que je vais examiner de près, c'est-à-dire les questions de culture. En effet, Charles II d'Angleterre dépêche Sir James Leslie et le colonel Percy Kirk qui obtiennent un accord le 20 mars 1681. Mais James Leslie, lorsqu'il obtient une audience du shérif du Maroc, doit se déchausser et il est très mortifié de se présenter ainsi sans chapeau et sans chaussures. Donc, lorsque le roi du Maroc envoie un caïd à Londres pour confirmer cet accord, la cour anglaise l'oblige à quitter ses babouches et surtout son turban, ce qui l'humilie infiniment. Alors, ce récit que j'ai retrouvé dans, Youssef Descrouz est plutôt rappelé par les Français, mais on voit que c'est une sorte de récit emblématique de ces questions de protocole qui vont être abordées tout au long de ces ambassades. Alors, Louis XIV souhaite soumettre les Salétins comme il souhaite soumettre les Barbaresques, et des négociations ont lieu au temps de Colbert avec un capitaine qui s'appelle Lefebvre de la Barre, qui négocie un traité. Mais lorsqu'on on l'obtient en France, Colbert le juge bizarre et contraire à la dignité du roi, et décide que Louis XIV ne l'acceptera pas. Or, au même moment, Moulay Ismaïl a envoyé un dignitaire pour avoir le dernier avis du roi de France. Donc, finalement, on refuse l'accord, mais on a déjà un diplomate. Et dans cette première mission, Moulay Ismaïl s'étonne que la lettre de Louis XIV, qui est pourtant le plus grand monarque de tous les rois des Romains, que cette lettre n'ait pas été bien présentée, et surtout qu'elle n'ait pas été présentée comme celle du roi des Anglais. Voici la lettre de Moulay Ismaïl. Il nous a envoyé une lettre cachetée et enveloppée avec de la soie, le roi anglais, et qui ont été apportées par des personnes de qualité et de condition avec honneur et respect. Moulay Ismaïl considère que Louis XIV n'a pas suivi cette procédure. Il lui demande donc des comptes. C'est pour cela qu'il envoie une ambassade. Et il envoie, et en même temps, cette lettre qui a fait rêver du 15 septembre 1681, qui demande à Louis XIV de se convertir à l'islam. Je vous exhorte d'observer les prières, faites-vous musulman, soumettez-vous à la religion mahométane et vous serez sauvés. Dieu vous récompensera deux fois. Si vous reculez, vous commettrez un grand crime, faites-en ce qu'il vous plaira. Et vous, messieurs du Vieux et Nouveau Testament, accordez-vous avec nous, selon le texte qui est que nous n'adorons et ne nous croyons qu'en un seul Dieu, et n'admettons point avec lui aucun compagnon, et ne croyons rien d'égal à lui, et n'établissons point d'autre maître que lui. Et s'il recule et n'en veut rien dire, dites-leur alors, soyez témoins que nous sommes musulmans. Il assimile Louis XIV d'ailleurs à l'empereur des Romains, et il évoque une lettre que la France posséderait, une lettre du prophète envoyée à l'empereur Héraclius. Et il demande à Louis XIV s'il fait partie de cette lignée d'Héraclius, de qui je vous parle. Ce sera donc un thème récurrent. Les Marocains vont demander s'ils ont bien cette lettre. Et Louis XIV sera obligé de dire qu'il n'en a jamais entendu parler, mais que si on la trouve, il en informera le monde. Et il semble avoir fait quelques recherches à la bibliothèque du roi. Alors, cette lettre ayant bien sûr, alors c'est lié à une propagande, bien sûr, cette lettre donnant des succès, et les succès de Louis XIV s'expliquant par la lettre du prophète. En même temps, les diplomates français vont noter cette façon que Moulay Ismaïl a d'aborder tout entretien par des considérations religieuses. C'est-à-dire qu'avant de commencer à parler de politique, on parle de la foi. Et Saint-Olon ira, nous verrons la vision extrêmement partisane, Saint-Olon ira jusqu'à dire que finalement, Moulay Ismaïl enveloppe du manteau de la religion ses caprices les plus violents. Donc il y a l'idée qu'il y a d'abord un discours religieux avant de commencer une discussion politique. Mais vous voyez, ce sera progressivement que ce sera finalement découvert. Alors l'ambassadeur arrive, il s'agit de Temim, Mohamed Temim. Alors il résiste au début à donner ses pouvoirs. Il y a toujours cette façon de résister à prouver qu'on est un ambassadeur et à donner des lettres, à montrer ces lettres qui doivent être réservées au roi. Finalement, on le reconnaît, certains marchands le reconnaissent comme le gouverneur de Tétouan, et donc il part pour Paris où il est logé à l'hôtel des ambassadeurs, rue de Tournon. Il est conduit à l'audience du roi à Saint-Germain, traité à l'égal des envoyés des princes de l'Europe. Il n'est pas traité en ambassadeur, mais en envoyé. C'est-à-dire qu'en fait, la garde royale n'est pas sous les armes, mais elle se trouve en haie. Le roi le reçoit sans se lever, il se découvre, et on note que l'ambassadeur fait de profonds saluts en la manière des nations du Levant, et il fait son compliment en arabe. Il signe même un traité le 29 janvier 1682. Vient le temps des cadeaux, et là ça a été souvent noté, Temim a fait de beaux cadeaux que l'on a aimés, un lion, une lionne, une tigresse, quatre autruches. Et récemment, Johann Pieranelli, qui a fait une thèse sur les animaux à la cour, qui va bientôt paraître, a montré qu'il ne pouvait pas s'agir d'un tigre, mais d'un léopard, parce qu'il n'y a pas de tigre au Maroc. Et donc, c'est une fausse tigresse. Mais néanmoins, cette bête est conduite dans les appartements de la reine, où elle est caressée par les suivantes de la souveraine. Enfin, vous voyez, c'est peut-être un animal un peu docile. Je ne sais pas comment Marie-Thérèse a pu traiter cette tigresse. Et vous le voyez, cette représentation de l'ambassadeur à la Comédie-Française, où il se montre vraiment sidéré. Hein, et vous verrez, ça reviendra, cette idée de sidération face à la culture française. Alors, le Thémime n'est pas été sidéré en permanence, il a surtout demandé à passer par le sud de la France pour libérer des esclaves marocains. Et là, il y a toute une mise en scène, toute une préparation pour éviter justement qu'il n'en trouve. Donc, on fait disparaître les esclaves marocains de Toulon et de Marseille. Soit on les met sur des galères, soit on les met dans les salles hautes de l'hôpital afin que Mohamed Thémime ne les voie pas. Alors, Thémime sera extrêmement mécontent parce qu'il est venu pour ça en réalité. Il est venu pour ramener des esclaves. Et il revient sans esclaves, il revient avec un traité dont il se moque, dont tout le monde se moque, mais il revient sans esclaves. Et les galériens vont essayer de lui faire passer des lettres, et comme nous les avons, ça prouve qu'elles ont été interceptées, et ce sont de très, très douloureuses lettres. Probablement elles ont été interceptées sur le bateau qui ramène Thémime au Maroc. Nous avons ouï dire que c'est pour l'amour de nous que votre majesté a envoyé un ambassadeur à leur roi, donc c'est une lettre à Boulay Ismaïl, mais ces chiens n'eurent pas plus tôt appris son arrivée qu'ils nous envoyèrent tous en mer sur les galères, excepté les vieillards et ceux qui n'avaient pas la force de ramer, qu'ils mirent encore en prison dans une maison éloignée, afin qu'il n'eût point de nos nouvelles. Ils l'ont toujours amusé de paroles en le trompant, jusqu'à ce qu'il fût parti pour s'en retourner auprès de votre majesté. Donc vous voyez, là nous avons la voix des sans-voix, en quelque sorte, la voix des esclaves, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour le captif au Maroc. Arrivé dans son pays, donc, comme je vous l'ai dit, l'ambassadeur marocain se garde bien d'avouer qu'il ne ramène... Enfin, il se garde bien de dire qu'il a signé un traité, d'autant plus qu'il ne ramène pas de captifs. Alors, Moulay Ismaïl semble quand même content de cette mission, puisqu'il envoie une lettre à Louis XIV. Il aime visiblement beaucoup écrire à Louis XIV. Nous avons vu, c'est finalement un trait de ses relations, c'est-à-dire la lettre un peu formelle. Alors, je vous passe la lettre extrêmement élogieuse qui se termine par « Je souhaiterais de tout mon cœur que vous soyez le maître de tous et sur toutes les nations. » Vous voyez, c'est un genre de langage que Louis XIV trouvait très intéressant. Et il a envoyé aussitôt le baron de Saint-Amand. Et on voit bien, c'est un capitaine de vaisseau, c'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment dans le monde de la diplomatie, ce n'est pas un diplomate, c'est un capitaine de vaisseau, c'est plutôt le département du commerce et de la mer. Alors Saint-Amand vient pour obtenir la ratification du traité qui a été signé, alors que le gouvernement marocain n'en a jamais entendu parler. Alors ce baron de Saint-Amand a rédigé une relation qui a été publiée beaucoup plus tard, en 1698, je pense que c'est à la fin du siècle qu'on s'intéresse à tout cela, justement au moment de l'ambassade sur laquelle je m'arrêterai plus longtemps. Et dans cette relation, il note d'ailleurs à son arrivée à Tétouan que l'on suit des procédures très sophistiquées. Et il écrit « Avouez que ces barbares n'entendent pas mal le cérémonial et qu'il ne manque rien à tout cela », ce qui fera hurler Younes Nekrou, enfin ce mot « barbare hein, », bien sûr. Et il montre également que déjà son interprète, Pétis de la Croix, arrange ses paroles. Il ne dit que des choses flatteuses. Et on voit bien la première accusation portée sur les interprètes qui négocient comme à la porte. C'est-à-dire qu'il y a les deux parties, mais il y a des interprètes qui, je dirais, ménagent les deux camps et, pour donner une image harmonieuse des échanges, mais en même temps biaisent ces dialogues, puisqu'ils ne disent pas à l'un ce que l'autre en réalité dit. Alors, ils partent en voyage pour retrouver le roi qui est dans le sud. Alors, j'ai donné ces exemples parce que c'est un des cas très rares où l'on ait une description de la nourriture. Nous allons avoir bientôt un colloque sur table et diplomatie. Il y a là, voilà, dans le temps qu'on était à table, il y avait une troupe de Maures qui apportait 8 grands bassins de la part du même Hassan. Dans l'un, il y avait le veau de lait tout entier, dans un autre, quantité de poules et de pigeons bouillis avec une espèce de macaron qu'il nomme courcous. Le couscous, vous voyez, on avait 2 plats de poule rôtie et assaisonnés avec force safran, 2 autres avec une espèce de beignet fait avec le miel et des pâtes sucrées où abondait fort de la cannelle. Le 7e était de dattes et le dernier de raisin. Donc c'est un cas très rare. Généralement, dans les relations diplomatiques, on ne parle pas, ne note pas des détails, ce sont des détails jugés prosaïques. Et là, nous avons un document très beau sur la nourriture. Alors, le baron de Saint-Amand donne une très belle description également de sa réception par Moulay Ismaïl, qui est assis sur un tapis de Perse, étendu sur une grande natte. Le shérif dit « Taïbon, Taïbon, Taïboun, Taïboun », et il commence une discussion théologique sur le Christ, sur l'existence du Christ. Alors, Saint-Amand est très surpris, dit sa surprise, et Moulay Ismaïl lui dit qu'il se contente de conseiller le bien à ceux qu'il aime. Dans la relation ajoute, Monsieur l'ambassadeur le remercia de son conseil et le pria d'agréer qu'il n'en profita pas. Suite de la relation, le roi se prit à rire et lui dit qu'il connaissait qu'il avait beaucoup d'esprit. Alors, dans la conversation qui suit, Moulay Ismaïl se lance, comme souvent, dans des considérations géopolitiques. Il trouve que Louis XIV est un très bon roi parce qu'il n'admet aucune discussion dans son royaume. Alors que le roi d'Angleterre est prisonnier de son parlement comme une vieille femme, et qu'il y a une régente, que l'Espagne est gouvernée par une femme, ce qui est pour lui la désolation. Il ajoute à propos, en parlant de l'esprit, parce que Saint-Amand lui dit qu'il l'a vu le matin faire une fantaisie avec ses soldats et qu'il lui a trouvé ce grand air de conquérant et de victorieux. Alors, Moulay Ismaïl l'interrompt et lui dit « Je ne me suis pas trompé, vous avez beaucoup d'esprit. » il ajoute qu'il sait que les Français en ont beaucoup. Il n'en est pas de même des Arabes qui n'ont nul esprit et sont tous des rebelles. Il faut dire qu'il est en train de faire la guerre à son neveu au moment de cette ambassade. Alors, Saint-Amand fait des compliments sur les envoyés marocains, et là on s'aperçoit qu'en réalité il y a une petite substitution, c'est-à-dire que en réalité Mohamed Temim n'était pas l'homme nommé par Moulay Ismaïl, mais que c'était en réalité un autre, quelqu'un qui vient dans sa suite, Ali Mahanino, qui était le véritable ambassadeur. Donc les Français, vous voyez, un peu sans qu'ils n'en disent rien, mais découvrent qu'ils n'ont pas bien vu qui était le véritable ambassadeur lorsqu'il est arrivé en France. Alors, la négociation continue et Moulay Ismaïl a fini. Alors, voici. Non, ça c'est Monsieur de Saint-Amand. Donc, Moulay Ismaïl continue la négociation et écrit à Louis XIV, nouvelle lettre. Nous vous écrivons présentement pour vous faire voir que les grandes âmes seules connaissent le mérite des grandes âmes et que ceux qui ne possèdent point cette véritable grandeur ne connaissent pas ce qui est dû à ceux qui la possèdent. Vous voyez toujours ce discours de roi à roi qui est très impressionnant. En réalité, tout tourne autour des esclaves et on n'aboutit à rien. Néanmoins, en 1693, nouvelle ambassade, Pidou de Saint-Olon, qui publie sa relation de l'Empire de Maroc en 1695, donc avant celle du baron de Saint-Amand, et celle-ci était donc publiée tôt, et on voit bien qu'il y a là une ambiguïté, c'est un livre, et en même temps une relation au roi. Donc, qu'est-ce qui est de l'information de l'État? Qu'est-ce qui est de la connaissance du public? Et là, c'est un texte extrêmement difficile à lire, je dirais, pour un Marocain. Et Younes Nekrouf a beaucoup réagi à ce texte qui est très, en effet, aujourd'hui, insupportable. Alors, ce que dit Saint-Olon, qui donne beaucoup de détails sur le royaume, sur la religion, Saint-Olon raconte aussi sa réception. Il semble dire qu'il est l'objet de huées et d'injures, malgré le caractère d'ambassadeur qu'il a. Et il doit être accompagné par un esclave noir qui fascine justement les voyageurs, puisque le roi Moulay Ismaïl a une garde prétorienne, c'est Abid al-Bukhari, qui le garde et évite les attentats. Et on voit bien que ce sont des hommes qui sont pris, sans doute par des rafles, en Afrique noire. L'ambassadeur est un peu choqué parce qu'il est reçu par le roi qui a les jambes nues, les bras et les jambes nues. Et on comprend, vous voyez, que dans l'esprit d'un homme du temps Louis XIV, ce soit quelque chose d'insupportable. Et cette réception a été l'objet, vous voyez, d'une peinture. Il y a un détail qui a été beaucoup discuté, surtout l'audience de congé, c'est que Saint-Olon affirme que le roi est arrivé pour le recevoir en habit jaune, ce qui signifiait que c'était l'habit qu'il portait lorsqu'il était souvent de très mauvaise humeur. On l'accuse de prendre de l'opium et de prendre des sortes de... Je vous passe le détail, mais je vous le donne plutôt. Il ne boit point de vin parce que sa religion le lui défend, mais quand il prend de l'opium ou d'un certain hypocras qu'il compose lui-même avec de l'eau de vie, clou de girofle, anis, cannelle et muscade, on donne même là, vous voyez, la méthode, ce qui lui arrive assez souvent, malheur à qui se trouve exposé à quelques-unes de ces fumées. Et ce que dit Saint-Olon, et là c'est très discuté, c'est qu'il arrive avec un habit taché de sang, et Saint-Olon dit qu'il vient de tuer deux de ses gardes noirs. Bien sûr, Youssef Nekrouf dit qu'il vient en fait, c'est le jour du sang qu'il a pris dans une cérémonie religieuse. Vous voyez donc tout un débat sur cette cruauté du roi. Alors, tout cela débouche finalement sur une grande ambassade d'un amiral de Salé en 1699, Abdallah bin Aïcha. Nous avons beaucoup de documents, merveilleux documents, le témoignage du baron de Breteuil, le récit du Mercure Galant et beaucoup de correspondances, des documents qui sont traduits, d'autres qui existent dans une liasse particulière dont on ne peut pas savoir s'ils ont été traduits ou non, et qui sont des documents là authentiques avec les sceaux écrits en arabe. Donc tout ça mériterait une nouvelle étude, à mon avis, ou déjà utiliser la merveilleuse édition des sources inédites du Maroc. Et tout le voyage en particulier d'Abdallah bin Aïcha a été bien donné par le Mercure Galant, qui est probablement, le rapport du Mercure Galant a probablement été rédigé par l'interprète lui-même, Petit de la Croix, qui était secrétaire interprète du roi aux langues orientales, et c'est un plaisir pour moi de dire qu'il était aussi professeur en langue arabesque au Collège Royal, c'est-à-dire c'est un homme de cette maison. Alors, cette relation permet de noter beaucoup d'éléments très importants. D'abord, l'envoyé marocain est très sensible au protocole. Il s'invente son propre protocole, c'est-à-dire qu'il a autour de lui quatre personnes qui portent de très grands fusils enveloppés de maroquin rouge. Il est très sensible à son pavillon amiral. Alors, souvent, on le maltraite, on ne l'autorise pas à utiliser ce pavillon amiral. Il est amiral lui-même et il a la prétention d'entrer à Paris avec ce pavillon amiral, on dit qu'il n'en est pas question qu'il entre dans Paris avec un pavillon amiral. Donc il y a, vous voyez, des sortes de mises au point. Et chose également très essentielle dans ces relations, et le Mercure Galant est un journal mondain, c'est le rapport aux femmes. Et bin Aïcha, qui est un bon mari, d'ailleurs il le proclame, il ne regarde pas les dames, et néanmoins un langage qui plaît beaucoup aux Français et aux Françaises. Quelques dames lui ont demandé pourquoi il prenait chez eux plusieurs femmes. Il leur répondit que c'était afin qu'ils puissent trouver en plusieurs ce qu'on rencontre assemblé abondamment en France, dans chacune en particulier. Fin de citation. Vous comprenez que c'est toutes ces images. Alors, on ne peut pas savoir. Alors, ce qui est, à mon avis, la grande subtilité de bin Aïcha, ce qui est du travail de Pétis de la Croix, ce qui est également souvent du travail des journalistes Mercure Galant. Notons également que bin Aïcha ne dépend pas complètement de Petit de la Croix, car il a avec lui un marchand français nommé Fabre, qui lui sert d'interprète en langue espagnole. Et bin Aïcha connaît l'espagnol. Donc il y a à la fois, il peut parler en espagnol à Fabre, et donc comparer avec ce que dit Pétis de la Croix. Il fait des harangues, et voici son. Alors, il y a également un rôle, alors il ne l'aime pas du tout, mais un rôle considérable, de ce consul, de cet ancien consul à Salé, Estelle, qui lui là aussi joue un peu la mouche du coche. Il y a tout un réseau d'hommes qui sont à la fois envoyés autour de Binaïcha et qui forment une sorte de réseau. Et certains ont visiblement, et on l'a dit tout à l'heure, la grande perspective, c'est de faire des affaires, hein, et de pouvoir faire du commerce à Salé. On voit bien que les intérêts marchands ne sont jamais oubliés. Et voilà le discours, un discours qui ne peut que plaire à la cour de France. C'est à Nantes. « Je viens, messieurs, de la part du plus grand empereur d'Afrique, demander l'amitié du plus grand empereur de l'Europe. C'est cette amitié qui fera paître la gazelle avec le lion sans crainte d'être dévoré. C'est cette amitié qui rendra les morts français et les Français morts. C'est enfin cette amitié qui doit briser les fers insupportables de tant de pauvres sujets des deux parties qui gémissent dans l'esclavage. » C'est un beau discours, bien équilibré, et on voit bien que tous ces discours vont être admirés. Alors là encore, qu'est-ce qui est de Petit de la Croix, qu'est-ce qui est de Binaïcha? Près d'Amboise, il demande à voir le lieu où Charles Martel a vaincu les Sarrasins. Donc il y a une histoire longue, vous voyez. Et alors, il veut y être conduit. Alors je ne sais pas où on l'a conduit, vous voyez. Je ne sais pas si on a choisi un lieu et on lui dit c'est là que ça s'est passé. Parce qu'on ne peut pas... Alors là, il y va. Je pense qu'on a dû inventer quelque chose. Il se prosterne, il se couvre la tête de terre. Puis, à l'emplacement supposé des tombeaux des vaincus, il prend des poignées de terre pour les ramener dans son pays, je cite, « comme une terre sainte qui avait enseveli les martyrs de sa secte ». Il arrive donc à Paris et c'est là entre en scène le baron de Breteuil, introducteur des ambassadeurs. Il sera donc logé à l'hôtel des ambassadeurs, rue de Tournon, mais on enlève tous les meubles de la couronne que l'on considère comme trop magnifiques pour un simple envoyé marocain. Et ce n'est pas du mépris, le baron de Breteuil se justifie. Il est persuadé qu'il faut en toute chose mettre de la différence entre ces sortes d'ambassadeurs et ceux et des rois et puissances de l'Europe. Non que le titre de roi ne soit égal et que la puissance de celui du Maroc, aussi bien que l'étendue de ses royaumes, ne soit grande, mais parce que ce roi et tous les autres princes mahométans ne traitent pas les ambassadeurs des princes chrétiens avec la même civilité et les mêmes cérémonies que les princes chrétiens traitent les ambassadeurs qu'ils envoient les uns aux autres. Je crois que c'est presque un principe, vous voyez, qui s'établit ici, justement un principe de diplomatie. Et on voit bien que ce n'est pas du mépris parce que, au contraire, le baron de Breteuil enlève toutes les tapisseries à personnages, je cite, surtout dans la chambre à coucher et dans la chambre du sofa, lieu où ils font leur prière. C'est-à-dire il ne faut pas mettre de représentation humaine. Il fait installer un sofa parce que c'est là qu'il passe la plus grande partie de la journée. Et on prévoit même, alors c'est l'autre aspect que j'ai déjà indiqué, on prévoit même des billets qu'il faudra montrer pour que l'on puisse voir l'ambassadeur. C'est-à-dire que ça devient un spectacle. On va distribuer des billets pour que les Parisiens puissent accéder à la chambre de l'ambassadeur. Ça devient, et vous verrez, tout cela devient une sorte de parade. Alors, l'audience a lieu à Versailles, on a beaucoup de détails, hein, sur l'audience, le 16 février 1699, on vient chercher dans sa maison, enfin dans la maison des ambassadeurs, l'ambassadeur à 5h du matin, ils arrivent à 8h30. Alors, Breteuil fait mettre en ordre son cortège pour servir de guide à cette cavalcade, il dit « aussi pauvrement vêtue qu'elle était extraordinaire ». Et Breteuil, là, il met un jugement là, le personnel sur Binaïcha, qui a toutes les qualités d'un honnête homme. Mais, quoique riche, il est d'une avarice sordide et il ne veut pas faire les frais d'habit neuf pour sa suite. Binaïcha a demandé que toute sa suite puisse accéder à Louis XIV, parce que c'est le cas auprès de l'empereur du Maroc. Louis XIV accepte. Et on voit que là aussi, on a disposé les gardes de manière à ce qu'ils ne montrent pas que c'est un ambassadeur, mais ils n'ont pas les armes à la main, mais ils sont eux-mêmes des spectateurs de ce spectacle. Et le Mercure Galant va noter quelque chose de très intéressant, qui est complètement une invention, mais qui est une rhétorique, mais qui est peut-être vrai. Mais c'est la sidération, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est l'arrivée à l'escalier des ambassadeurs, qui a aujourd'hui disparu, quand ils furent au pied de l'escalier des nations, par où on les fit monter, parce que le roi était dans son grand appartement, ils ne purent s'empêcher de marquer leur surprise, quoiqu'ils ne fussent alors occupés que du roi et de l'audience qu'ils étaient prêts d'en avoir. Mais ils furent frappés de l'éclat de la dorure de cet escalier, des marbres de diverses couleurs, et du jet d'eau qui en forme plusieurs nappes, sur ce superbe escalier, où il parut un monde infini. Il était rempli de personnes de distinction, dont la foule, jointe au grand nombre de figures peintes qui remplissent les murailles de ce degré, représentait un brillant amas de toutes sortes de figures. Il y a à la fois les personnages représentés dans l'escalier des ambassadeurs, toutes les nations, vous savez, c'était toutes les nations qui regardent l'ambassadeur, puis les courtisans qui sont sur les marches, et vous voyez, c'est... Tout le monde se regarde. On vient regarder les Marocains et les Marocains regardent les courtisans. La cérémonie donne lieu d'ailleurs à un problème, toujours le problème du turban, ça peut être considéré comme une injure à Louis XIV. Et Breteuil dit qu'il ne salue qu'en mettant les deux mains nues sur la poitrine, car il ne porte point de gants, et en même temps il penche la tête sur l'épaule droite. Et là, Binaïcha a eu la subtilité d'expliquer ce que cela signifiait. Il dit qu'on met la tête sur l'épaule droite pour dire qu'on peut couper le cou. Et comme ça paraît une bonne idée, on accepte cette marque qui pourrait sembler injurieuse. L'ambassadeur fait sa harangue, et là encore, lorsque l'on traduit la harangue, chacun s'aperçoit qu'elle était si bien écrite qu'elle surprit tout le monde. Vous voyez, c'est-à-dire que les Marocains sont sidérés, mais les courtisans sont également sidérés de cette capacité de Binaïcha. Alors, tout le monde est très content et les domestiques baissent les mains de Binaïcha. Alors, je vous passe les détails parce que je vois que j'ai beaucoup trop parlé, mais progressivement, vous voyez, dans cette ambassade, l'ambassadeur acquiert une sorte d'estime. Et voici la conclusion de Breteuil, qui a vécu avec lui. Il y a plus d'esprit et de politesse. Il a plus d'esprit et de politesse qu'on ne devait attendre d'un corsaire né en barbarie. Et il conclut : je suis obligé d'avouer que dans le commerce que j'ai eu avec lui, je l'ai trouvé homme de beaucoup d'esprit et de raison, poli, humain et sage, autant qu'homme que j'ai connu. Et on voit bien cette volonté de rendre hommage à cet ambassadeur. Alors, Binaïcha, qu'est-ce qu'il pense? Vous allez voir, il va tout admirer. Eh bien, dans une de ses lettres, qui a été bien sûr interceptée, on voit qu'il appelle Louis XIV roi de France, mais Petit de la Croix a mis au-dessus du mot roi le mot réel, tagia, je ne connais pas l'arabe, mais ce qui semble signifier tyran. Donc, vous voyez, on voit bien que Petit de la Croix souligne que la précaution n'a pas été prise. Alors, il visite tout Paris, on lui présente à peu près tout. Dans Paris, c'est en quelque sorte tout le règne de Louis XIV que l'on présente à Binaïcha. Et on lui montre aussi beaucoup de peintures, beaucoup d'ateliers. Voici la visite à l'Académie de peinture. Les écoliers dessinaient alors d'après le modèle. Dans une salle séparée, il y fut mené, mais sitôt qu'il eut jeté les yeux dessus, il se retira parce que sa religion ne lui permettant pas de voir des figures, il crut qu'il y avait encore plus de mal de voir un homme nu. Il va trouver encore pire les portraits en cire de Benoît. Mais en même temps, il visite à peu près tout, en particulier l'observatoire. Et j'ai trouvé cette lettre de Cassini envoyée aux astronomes du Maroc, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'ambassade débouche sur un dialogue scientifique. Il voit également Louis XIV à deux reprises en train de souper. Et lorsqu'on lui fait remarquer cela, il dit qu'il trouve cet usage admirable, Bona Usanka, c'est-à-dire que, vous voyez, on note bien la parole qu'il a dite, c'est-à-dire qu'il trouve ça très, très bien, qu'on puisse accéder facilement au roi. Parallèlement, et je n'ai pas le temps, mais c'est intéressant, il a mené un travail de négociateur. Vous voyez ici des traités corrigés avec des remarques, vous voyez exactement comme on le ferait pour un traité entre princes européens, des brouillons. Et finalement, il a la sensation que tout cela échoue. Et finalement, il écrit une lettre aux galériens marocains. Alors, je suppose qu'elle n'est jamais arrivée à eux, mais vous le voyez, où on a première, deuxième, troisième proposition. Il résume la négociation aux pauvres galériens qui se trouvent à Marseille et à Toulon. Alors, tout à la fin, il y a un dernier incident diplomatique assez intéressant, Saint-Olon, dont nous avons vu la brutalité tout à l'heure, qui accompagne l'ambassadeur. a l'impression qu'il a obtenu une concession importante sur les esclaves et que tout le reste peut bien aller. Donc, lors de l'audience de congé le 26 avril 1699, on est plutôt, la Cour est plutôt optimiste sur ce traité. Mais lorsque Binaïcha se retire, on comprend qu'il y a malentendu. Saint-Olon a trompé en quelque sorte l'amiral marocain. Il n'a accepté qu'un élément. Il veut rediscuter tout le traité. Il se met en colère. Il faut le calmer. Binaïcha en appelle même au témoignage de Madame de Saint-Olon, disant que finalement cela s'est dit en sa présence, lorsqu'on buvait du café. Et on voit bien que progressivement, la Cour de France s'aperçoit qu'il a compris le cachet de cette négociation. Et finalement, le refus de la Cour de négocier. Et ce qui en ressort, c'est que ce sont des affaires, en particulier avec un certain Jourdan, qui vont commencer, c'est-à-dire une compagnie de Salé. Alors, il y a, et je terminerai par là, un dernier élément romanesque qui est bien connu, c'est qu'il a vu chez monsieur la fille de Louis XIV, une fille légitimée, la princesse de Conti, qui est veuve. Il a parlé de sa beauté, qui était très grande, surtout quand elle était très jeune. Elle a été chantée par La Fontaine, la voyez, c'est un peu, à peu près au moment de l'ambassade. Et il en a parlé à Moulay Ismail, qui l'a trouvée très bien pour son harem et qui la demande donc en mariage, en disant qu'elle pourra conserver sa religion, ses coutumes. Et voici la lettre du 15 novembre 1699, elle est traduite à côté, où l'ambassadeur Binaïcha, de retour au Maroc, demande la main de la princesse de Conti à Louis XIV. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le supposer, Louis XIV n'a pas donné sa fille à Moulay Ismail, mais les poètes s'en sont donnés à cœur joie, et en particulier ont dédié des poèmes à la princesse de Conti, dont l'un, par exemple, dit « L'Afrique avec vous capitule ». Donc, vous le voyez, il y a des aspects intéressants. Souvent, je n'ai relevé que les aspects culturels, ces échanges, finalement, entre la culture française et la culture marocaine, avec un mélange de dédain, mais aussi d'admiration. Je vous cite la dernière lettre du ministre des Affaires étrangères, Colbert de Torcy, qui écrit à Binaïcha au moment où il s'en va, « Le jour où je vous ai connu a été pour moi un des plus heureux. Je n'oublierai jamais votre politesse, votre esprit et votre grande capacité dans les affaires importantes. Un roi servi par un sujet tel que vous doit être en repos sur les affaires dont il vous remet le soin. Tout a échoué, mais on s'estime. » Et vous voyez, souvent, la diplomatie, c'est cela. Ce sont des échecs, mais il faut avoir tenu pour son maître. Et Binaïcha a tenu jusqu'au bout. Il a tenu face à la ruse, il a tenu face à l'intimidation, il a tenu face à la menace, et finalement, il s'est imposé comme un diplomate, j'allais dire, ordinaire, comme un ambassadeur ordinaire. Donc, pour conclure, les relations franco-marocaines ont été épisodiques au temps de Louis XIV, deux envoyés de Moulay Ismail, deux envoyés de Louis XIV. Comme la France veut faire cesser la course des Salétains, et comme il y a déjà eu des expéditions contre Alger et Tripoli, il peut être tenté de faire de même contre Salé et Tétouan. Moulay Ismail et ses conseillers cherchent donc à éviter ce drame qui a eu lieu à Alger. De son côté, la France regarde vers le Maroc probablement comme ennemi de l'Espagne. Moulay Ismail va assiéger les présides espagnols et donc finalement comme un allié possible. En réalité, on peut se demander s'il n'y a pas aussi un jeu de dupes, un double jeu de dupes. Le roi de France veut garder ses galériens. Le royaume du Maroc trouve dans le rachat des captifs une source de revenus. De telles vérités ne se disent pas, mais elles expliquent l'échec des traités vite abandonnés. Si bien que ces ambassades servent aussi à montrer au peuple et aux pauvres esclaves que leurs rois respectifs pensent à eux, même s'ils ne peuvent rien faire. Ces parades symboliques ont peut-être surtout des vertus internes dans les deux pays. Les négociations ont achoppé, vous l'avez vu, mais il n'y a pas eu de conflit, pas d'affrontement direct, pas de bombardement. Le commerce continue malgré la course, et on pourrait dire que Moulay Ismail, de certain côté, s'efforce de s'insérer dans les formes de la diplomatie telle qu'elle s'impose en Europe, et en même temps qu'il impose sa manière d'être, sans doute pour se faire redouter, de roi cruel. Vous l'avez vu, il participe néanmoins à ces échanges politiques, à travers ces échanges de lettres entre princes, très éloquentes, mais qui sont bien ces lettres formelles qui symbolisent le dialogue entre les États. Surtout, du côté des populations, le Maroc, d'un côté, les ambassades marocaines suscitent en France une grande curiosité, comme le montre cette représentation de Bina Aïcha mangeant avec, servie par ses esclaves. C'est la découverte d'un autre monde, avec une autre religion, d'autres mœurs, d'autres habits. Dans la pratique politique, les règles sont respectées à l'égard du souverain du Maroc comme l'égal des autres princes du monde. Simplement, on doit considérer le Maroc comme un cas particulier. Et on a vu que la diplomatie française a ajouté des attentions particulières pour montrer la politesse de la culture française face à des peuples différents, sans doute considérés comme un peu barbares. En même temps, entre ces deux mondes, négociateurs et interprètes lancent des passerelles sur des gouffres d'incompréhension. Les négociateurs passent par des lettres, officielles ou secrètes, et ils ont besoin de traductions. Petit de la Croix joue là un rôle essentiel. Il est à la fois passif et actif. Fabre également, dont nous ne percevons pas bien le rôle, a dû jouer un rôle très important. Si Bina Aïcha se confond en compliments sur la France, il n'a pas, semble-t-il, laissé lui-même un témoignage qui puisse révéler son opinion réelle. Il a dit qu'il tenait un journal, mais je ne crois pas qu'on l'ait retrouvé. Néanmoins, nous l'avons vu, sa personnalité impose le respect, comme en témoignent Breteuil et Torcy. Cet amiral, lui-même redoutable corsaire, sait se glisser dans une culture de cour qu'il découvre. Il sait parler aux dames, il se crée un réseau d'amitié qu'il cherchera ensuite à entretenir. Parce qu'il sait flatter les Français, l'ambassadeur prend peu à peu chair à leurs yeux. Il devient ambassadeur. Et comme son maître impose sa figure inquiétante au monde de son temps, Bina Aïcha sait s'imposer comme homme de cour le temps d'un voyage aux yeux de la cour de France. Le voyage diplomatique sert ici la découverte de l'autre, inconnu ou détesté, et esquisse même brièvement un dialogue plus culturel que politique. Je vous remercie.